RTL l'équipe.
Croisée courte gagnante.
Carrément tennis.
Superbe attaque de couloir.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis pour une heure de petite balle jaune, une heure d'actualité tennis, carrément tennis avec tous nos spécialistes et un invité prestigieux ce matin à quelques jours du coup d'envoi de Roland Garros, deuxième grand chelem de la saison, celui qui nous passionne tant sur cette terre battue mythique du stade de Roland Garros où on jouera les prolongations. Les prochaines années, on a été rassurés de ce côté-là et puis la donne a un petit peu changé pour cette année 2011. Raphaël Nadal n'arrive plus en favori parce que les semaines passent et les résultats ne changent pas. Novak Djokovic, le Serbe, demeure plus que jamais invincible. Nouvelle victoire la semaine dernière dans le Master 1000 de Rome. 6-4, 6-4 face à Rafael Nadal en finale. On va essayer de comprendre pourquoi Novak Djokovic continue d'être aussi fort, pourquoi il continue de battre Rafael Nadal. Là, il n'y avait pas d'altitude à Madrid, c'était des conditions normales du côté de Rome. Alors Djokovic, grand favori de Roland-Garros ou pas? Est-ce que le format des 5-7 sur 15 jours peut changer quelque chose? Selon vous, on essaiera de vous donner tous les éléments pour comprendre ça. À Rome, il s'est passé de belles choses également dans le clan français, notamment pour Richard Gasquet, désormais 14e mondial, bien placé dans le rang des têtes de série pour Roland-Garros et qui a surtout enchaîné deux victoires face à Roger Federer et Thomas Berdych avant de livrer un premier set de très haut niveau face à Rafael Nadal. A-t-on retrouvé le vrai Richard Gasquet? Peut-on attendre quelque chose de lui à Roland-Garros ou peut-être un peu plus tard à Wimbledon? On espère en tout cas le revoir, pourquoi pas, dans le top 10 d'ici la fin de la saison. Retour également au premier plan de Maria Sharapova qui gagne le tournoi de Rome en finale face à Samantha Stosur qui elle aussi repointe le bout de son nez, la finaliste de Roland-Garros de l'an dernier qui arrive à son pic de forme au bon moment en vue, pourquoi pas, de venir décrocher le titre cette année sur les courts de la Porte d'Auteuil. Ce sera pour le tennis féminin dans la deuxième partie de l'émission. Et puis les qualifs également sont partis du côté de Roland-Garros. C'est toujours compliqué pour les Français, mais on en espère en retrouver quelques-uns dans le tableau final. Like
RTL l'équipe, carrément tennis. I just wanna
make you sweat. À mes côtés dans ce studio, Myrtille Rambion qui est toujours là, fidèle au poste. Salut Myrtille.
Salut Eric, salut à tous.
Julien Varlet qui n'en finit plus lui d'apparaître dans le journal. Alors la semaine dernière c'était parce qu'il était le dernier joueur classé au-delà de la 100e place mondiale à avoir pris un set à Rafael Nadal. Cette semaine on apprenait, on le savait nous mais on l'a pas dit, dans les colonnes du journal L'Équipe, que Julien Varlet sera le nouveau speaker du stade Suzanne Lenglen pendant Roland-Garros. Salut mon Juju.
Bonjour à tous, avec
vous
plaisir.
Étiez dans le journal.
Avec plaisir.
Encore.
J'ai l'impression, je vous avoue.
Vous squattez le journal.
C'est quand même plus simple de commenter en cabine, tranquillement, quand on ne voit pas que quand on est sur le terrain. Donc voilà.
Mais avec
c'est un bon challenge.
Votre coach marrant. Benoît Mélin qui voilà, vous a exactement. Préparé pour ce tournoi. Pas de soucis, qu'on salue Benoît, bien sûr, que l'on retrouvera pendant Roland-Garros également. Clément Grèze est à nos côtés. Salut Clément.
Bonjour à tous.
Qui sera également avec vous du côté de Roland-Garros. On fait un petit coucou à Émilie Loi qui ce matin va faire des petites photos du bébé tranquillou avant Roland-Garros. On lui souhaite plein de bonnes choses. Et nous recevons ce matin Monsieur Christophe Chenu. Bonjour, Monsieur
Bonjour.
Chenu. Alors, je suis très heureux de vous recevoir, directeur général de la marque Lacoste, qui va bien sûr avoir une grosse actualité. On va y venir dans quelques minutes pendant Roland-Garros pour les 40 ans de partenariat de la marque avec le tournoi. Parce que Christophe Chenu, vous étiez il y a 4 ans à nos côtés, à l'initiative de ce beau projet qu'est RTL L'Équipe, la radio numérique du sport et de l'info. 4 ans après, on est ravis de vous accueillir et d'être toujours là.
C'est assez émouvant pour moi parce que c'est vrai que je suis sur la photo de l'inauguration puisque j'avais la chance à l'époque d'être directeur général de l'équipe et avec Axel Duroux, on avait baptisé cette jolie radio RTL L'Équipe et je suis ravi qu'elle existe toujours et je suis ravi que vous ayez la gentillesse de m'inviter sous ma nouvelle casquette de Lacoste.
Évidemment, vous êtes le bienvenu quand vous voulez et c'est vrai que ça fait plaisir cette photo, on l'a gardée nous, je peux vous dire elle est dans le bureau là-bas, le lancement d'RTL L'Équipe il y a 4 ans aux côtés de Claude Droussan, de Christophe Chenu, de Jacques Esnou et de Axel Duroux. On salue si certains sont partis vers d'autres horizons, dont vous Christophe, il y en a qui sont encore là et cette radio...
Il y avait Teddy Riner qui était venu pour le baptême aussi, c'était bien, on se sentait en sécurité.
Exactement, voilà. Qui est revenu d'ailleurs régulièrement pour fêter les anniversaires, Teddy Riner, qui lui prépare les championnats du monde de judo à Paris. Ce sera au mois d'août. On lui souhaite là aussi un 5e titre mondial à notre cher parrain que l'on suivra au mois d'août. Je voudrais qu'on revienne d'abord, avant d'évoquer l'actualité, notamment les 40 ans de Lacoste avec Roland Garros, parce qu'il va y avoir plein de belles choses sur le tournoi de Rome. Tournoi mixte, hein, Master 1000, masculin, féminin, plein de belles choses. Les athlètes de Lacoste, je me tourne tout de suite vers vous, Christophe, sont bien comportés. Richard Gasquet et Samantha Stosur notamment. C'est bien, ça, pour préparer Roland Garros, c'est idéal.
C'est idéal, ouais, c'est idéal. Surtout, effectivement, on est très content pour Richard parce que un Français qui est performant à ce cette période de l'année, c'est important pour nous. Et quant à Sam, que j'ai vu ce matin-là, parce que j'arrive de Roland-Garros, c'est vrai qu'elle a beaucoup de points à défendre à Roland, puisqu'elle était finaliste. C'était une vraie déception qu'elle ne gagne pas la finale pour nous l'année dernière, parce qu'on la voyait vraiment finir vainqueur du tournoi. Et là, je pense qu'elle arrive aussi dans de très très bonnes conditions pour essayer de faire mieux que l'année dernière. Ça veut donc dire gagner le tournoi.
Richard Gasquet, c'est vrai, on va s'attarder deux minutes quand même sur lui avant d'évoquer Novak Djokovic, dont on ne cesse de parler depuis des semaines. Julien, ce que nous a fait Richard là, la semaine dernière à Rome nous a fait particulièrement plaisir, parce qu'on a toujours bien sûr plaisir à le voir faire de bons résultats. Mais là, il y a eu un enchaînement avec ses victoires sur Federer, la deuxième hein, après celle à Monte-Carlo il y a quelques années, puis Berdych le lendemain, la confirmation, et puis j'ai envie de dire aussi ce match contre Nadal, cette demi-finale, et notamment ce premier set que Richard ne perd que 7-5, mais en développant un tennis vraiment exceptionnel. On a vu le Richard Gasquet qu'on aime, à la fois conquérant, offensif, brillant, bagarreur et qui gagne.
Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a, je pense, trouvé, il y a deux choses intéressantes, c'est qu'il a trouvé, je pense, le bon timing avec Ricardo Piatti est toujours un petit peu sous la houlette d'Éric de Blicquer, qui est maintenant un peu plus loin, puis Seb Grosjean qui lui prodigue quand même quelques conseils, même s'il n'est pas souvent avec lui, mais au téléphone. Et ce qu'on regrette souvent avec des joueurs encore un peu plus chez Français, c'est qu'il y a souvent une belle performance et derrière, bien, il y a le match qui suit où parfois ça plonge un peu, et là Richard a réussi à enchaîner, donc c'est plutôt bien. Physiquement, il a l'air plutôt bien, je l'ai vu en début de semaine, on a déjeuné ensemble, il est cool, il est relax. Alors je dirais même qu'en temps normal, quand arrive Roland Garros, il se tend un petit peu, là ça a pas l'air d'être le cas, donc c'est plutôt bien. Et puis maintenant, bon, bah voir comment ça se passer, le tirage au sort une fois de plus va être très important. Je pense pas qu'il faut donner trop d'outsider ou de voilà, mis à part peut-être les deux numéros un mondial, mais sinon le tirage va être important une fois de plus sur un tournoi sur 15 jours.
Alors tirage au sort qui a lieu demain matin à 11h30 au stade Roland Garros. Précisons tout de suite que Richard Gasquet occupera normalement le rang de tête de série 14, qui devrait le protéger jusqu'en 8e d'un joueur mieux classé que lui. Ça, Christophe, c'est vrai que c'est quelque chose d'important quelque part en vue d'un tableau plus progressif. Richard Gasquet n'a jamais été très gâté avec les tirages au sort, notamment à Roland-Garros.
Il est rarement arrivé dans cette position-là, et si on se rappelle même de l'année dernière, il était en pleine bourre aussi puisqu'il avait gagné à Nice. Il était un peu plus fatigué puisqu'il avait gagné la veille du tournoi, mais il était 80e mondial à l'époque, donc il avait tiré Murray au premier tour. Donc c'est sûr que le lendemain d'une victoire à Nice, faire un match en 5-7 contre Murray, c'était...
Il avait gagné les deux premiers brillamment d'ailleurs.
Voilà, j'en voulais un peu aux organisateurs, on leur avait signifié d'ailleurs de l'avoir fait jouer si tôt dans la quinzaine, ça aurait peut-être été plus judicieux de différer son match de 24 heures, c'était possible, puisqu'il a joué le premier jour du tournoi, enfin le deuxième jour, c'était le lundi. Je pense qu'on aurait pu le faire jouer le mardi pour qu'il récupère.
Alors bien sûr, on va évoquer la pression, Roland-Garros, Paris, les attentes, Richard Gasquet depuis des années. Là, il y a eu ces très bons résultats à Rome. Vous-même, en tant qu'équipementier et marque sponsor de Richard Gasquet Lacoste, forcément, il va y avoir des choses autour de lui et autour de la marque en général pendant Roland-Garros. Comment ne pas trop en faire, justement, pour ne pas susciter trop cette pression?
Bah, je crois que c'est plutôt du côté des médias qu'il faut poser la question. Parce que nous, partenaires que nous sommes, on va lui foutre une paire royale, puisque l'objectif c'est qu'il soit performant. Donc on ne le sollicitera qu'une fois qu'il sera éliminé, pour qu'il vienne à une manifestation de relations publiques. Voilà, donc si possible, même jamais. Pour qu'il vienne nous rejoindre au village, pour qu'il vienne déjeuner avec nos partenaires business, ou qu'il vienne participer à une manifestation pour la marque. Mais bien évidemment, tant qu'il est dans le tournoi, on lui fout une paire royale, parce qu'on veut pas perturber le déroulement de son tournoi.
Comptez sur nous pour pas lui foutre une paire royale.
Ça,
même si on a très envie
confiance
aussi de le voir briller, on va essayer d'être le plus discret possible.
Ce qui est étonnant chez Richard Gasquet, c'est le mot qu'on employait tout à l'heure, Julien, c'est qu'on a l'impression qu'il est relax, effectivement, qu'il prend les choses avec un petit peu plus de recul que les années précédentes. Alors c'est vrai qu'il était arrivé l'année dernière avec beaucoup d'attentes autour de lui, parce qu'il avait gagné Nice, qu'il avait battu des très bons terriens. Il était arrivé avec un premier tour qui était difficile, même si on pensait qu'il pouvait créer l'exploit. Et là, cette année, alors qu'il vient de réussir des grosses performances, il arrive avec un statut de favori numéro 1 des cœurs français, et pourtant on a l'impression qu'il prend tout ça avec énormément de recul, comme si les différentes épreuves, sa chute au classement et ce retour au plus haut niveau lui avaient permis de grandir, de mûrir, tout naturellement, très lentement, mais ça y est, que c'était le déclic cette année, peut-être, avec cette semaine à Rome.
C'est vrai, Birti, que normalement, quand on regarde le contexte, donc cette demi-finale à Rome, ses victoires sur Federer, sur Berdych, ce match contre Nadal, mon fils, qui a un peu disparu à cause de son allergie au fromage, de son virus, on ne sait pas trop dans quel état il va arriver, même si on se souvient qu'en 2008, il était arrivé à Roland sans préparation, il avait fait demi-finale. Tsonga, sans entraîneur, qui fait un match oui, un match non, qui n'est pas trop là. Simon, qui est aussi très irrégulier. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, tous les regards vont se focaliser sur Richard, et ça, normalement, ça devrait être, par le passé, on a vu très négatif, et là, ça n'a pas l'air de le déranger trop.
Pour le moment, on va voir comment ça se passe aussi une fois dans l'arène et dans la pression de Roland Garros. Moi, je me demande si c'est pas l'effet Piatti finalement, enfin un effet justement de calme, de sérénité, parce que Ricardo Piatti, on en a beaucoup parlé ici déjà. C'est un entraîneur qui doit être très sollicité, qui ne choisit pas de prendre un joueur parce qu'il a besoin de travail. C'est quelqu'un qui est très respecté. Il nous dit Ricardo Piatti que Richard Gasquet lui redemande encore de l'effort physique. Donc c'est vrai qu'on se regarde tous un peu en disant ah bon, il paraît qu'il en redemande. Donc tant mieux. Visiblement, ils ont trouvé un modus vivendi qui fait que oui, Richard Gasquet, bah il est bien dans son tennis, il est bien physiquement. À partir de là, le reste n'est pas très important finalement.
Christophe Chenu, est-ce que vous avez senti également cette métamorphose? On dit qu'il est vraiment bien en ce moment dans ses baskets, dans son tennis, dans sa vie. Il a l'air plus heureux, il sourit, il plaisante avec les journalistes. Est-ce que vous aussi, vous le constatez de par les relations que vous avez avec lui, bien sûr, comme marque partenaire?
Oui, alors moi j'ai deux relations avec lui là, en tant que partenaire, puis on joue au foot une fois de temps en temps ensemble avec le variété quand on arrive à tous les deux à être au même endroit au même moment. Donc je peux témoigner par des échanges de SMS récents que j'ai eu avec lui qu'il est beaucoup plus détendu, y compris dans ces échanges un peu informels. La plaisanterie est plus facile, enfin on sent qu'effectivement, je l'ai un peu chambré l'autre jour puisqu'il a dans sa conférence de presse dit qu'il avait battu Federer deux fois avec un polo rouge, donc je lui ai demandé quelles étaient les couleurs nécessaires pour battre Nadal, Berdych, Djokovic et les autres pour lui faire livrer immédiatement.
Chez Lacoste, pour les couleurs de polo, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci, on a tout ce qu'il faut.
La gamme est assez large.
Il faut qu'il détermine vraiment quelles sont les bonnes couleurs pour battre les autres. Et on a plaisanté autour de ça. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il aurait fait naturellement il y a un an ou deux. Ouais.
C'est vrai qu'on a l'impression de voir, Clément, un autre Richard Gasquet. Un Richard Gasquet bien. Voilà, ça, c'est important. Moi, personnellement, je donne rendez-vous à Wimbledon. Je l'ai déjà annoncé depuis plusieurs semaines, même si j'espère une belle surprise à Roland Garros. Mais c'est vrai, alors, il a aussi 23-24 ans maintenant.
Il grandit.
Ben oui, est-ce qu'il a fallu plus de temps? Est-ce que le fait d'être avec un entraîneur étranger l'a sorti un petit peu aussi d'un train-train franco-français, un peu chouchou?
Il y a sans doute ça, et puis il y a plein d'autres explications. Je pense que Richard Gasquet, il a vécu jusqu'à 20-21 ans avec la pression d'être quasiment le seul Français à pouvoir porter les espoirs d'un titre du Grand Chelem. Enfin, ça faisait 10 ans qu'on lui parlait de ça. Et puis ensuite, il y a eu l'émergence de mon fils et de son gars, qui lui ont permis, mine de rien, de prendre un tout petit peu de recul sur la pression, même si on continuait de dire de lui qu'il pouvait remporter un tournoi du Grand Chelem. Et finalement, en étant un petit peu caché, avec le temps que ça a pris et son développement personnel, qui est peut-être un petit peu différent de celui de tous les autres, eh ben, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être moins d'attentes sur ses épaules. Et du coup, il est revenu progressivement, parce qu'on lui a un petit peu foutu la paix aussi, parce qu'il était franchement très très loin l'année dernière. On le disait, il est arrivé à Roland, il est 80e mondial. Et du coup, ben, je pense que voilà, ça lui a permis de grandir et de faire un petit peu... bah, sa vie à sa sauce, quoi, tranquillement, comme un garçon de son âge, et de revenir, de mûrir, de grandir, de savoir s'il voulait faire pour gagner au tennis. Et du coup, bah, voilà, ça donne... Alors attention, hein, il a fait une semaine à Rome. Voilà, faut pas non plus s'emballer.
Non, mais il a quand même...
Faut pas dire qu'il a...
Il a des résultats assez cohérents depuis le début de l'année. Il y a une certaine régularité quand même qui s'est mise en place, Julien. Voilà.
Il y a encore des couacs.
Il y a cette... Oui, bien sûr, mais cette demi-finale à Rome est un peu, je trouve, le paroxysme de ce qui s'est fait depuis le début de l'année. On sent quand même que ça va mieux et c'est régulier. Plus régulier.
Ouais, c'est mieux. Puis après, il partait tellement loin, donc revenir dans le classement. La différence, c'est qu'aussi maintenant, ben, on va l'attendre encore un peu plus. Et puis, comme vous le disiez, il a grandi, vieilli. Ses parents sont repartis dans le sud, donc il les voit un peu moins. Il s'est détaché un peu d'Éric de Blicquer. Donc maintenant, voilà, il s'est vraiment construit. Peut-être que, et moi le premier, pourtant le connaissant très bien, je trouvais que voilà, il jouait dans l'ombre des autres et il se contentait très bien de cette place-là. Maintenant, voilà, on a l'impression qu'il revient un petit peu au devant de la scène, qu'il a envie de montrer qu'il est présent. Donc, et puis on le sait depuis des années qu'il peut très très bien jouer. Il peut bien jouer aussi sur toutes les surfaces. Donc il y a pas mal de petites choses qui font que il a quand même été une fois dans le top 10. Il a joué le Masters. Donc voilà, fallait pas non plus le sabrer trop tôt.
Et surtout, ce qui nous a fait plaisir à Rome et qu'on espère vraiment voir les prochaines semaines, c'est ce tennis, ce choix de tennis offensif que certains d'ailleurs lui réclament depuis des lustres, qu'il mettait parfois en exergue, mais pas tout le temps. Là, on l'a vu jouer de manière offensive, de manière inspirée, de manière spontanée. C'est son tennis à Richard Gasquet. Il l'a fait sur plusieurs matchs, même quand ça allait moins bien, notamment contre Nadal, il a refusé de reculer. Est-ce qu'il peut s'y tenir? Est-ce que ce qu'on a vu à Rome, il peut vraiment s'y atteler les prochaines semaines et sur toutes les surfaces? Ou est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un retour de « je vais à nouveau reculer
» Non, parce qu'il a gagné des matchs en battant des très très bons joueurs. Donc automatiquement, cette envie-là, ben, va rester. Il faut qu'il s'imprègne de ces matchs références. Et en plus, comme disait Merti tout à l'heure, il a quand même Riccardo Piatti à ses côtés, qui est quand même un très très bon entraîneur, qui fait pas beaucoup de bruit, un peu comme un Larry Stefanski, qui est pour moi un des meilleurs entraîneurs aussi au monde. Donc voilà, il a quand même une grande expérience.
Il devrait bientôt être libre, hein, pour peut-être Joe Tsonga ou quoi, parce qu'avec Roddick, ça quand même, ça devient catastrophique. Andy Roddick, c'est vrai qu'Andy Roddick en ce moment,
c'est la saison de terre. Donc
ouais, c'est la terre,
même,
c'est la terre
où il a un peu plus de mal.
Début de saison, il a fait quoi?
Pas grand chose.
Andy Roddick, il a des grosses difficultés. C'est pas grave, il va peut-être revenir, mais en ce moment, il a
un peu mal à l'épaule aussi en ce moment. Hein,
donc, en plus, voilà, donc, ça, à force d'envoyer des cachous.
Et pour lui, je sais si l'épaule est importante.
Voilà, ça fait une dizaine d'années qu'il tape très très fort son service et il a un peu quelques difficultés à l'épaule.
Ça doit être dur à vivre pour lui d'ailleurs, mais c'est vrai que la terre battue en plus, c'est pas son truc. Il s'en est jamais caché. Bon, voilà, on n'est pas à l'abri non plus d'une belle surprise pour Roddick, mais c'est plus compliqué. Voilà, Richard doit s'y tenir quand même vraiment à cette philosophie.
Ouais, puis il a, comme je le dis, si un joueur fait une certaine tactique et qui se plante. Là, au contraire, c'est passé un petit peu sur les quelques dernières semaines. Au contraire, il faut qu'il aille dans cette voie-là.
Allez, qui continue? On va l'écouter, Richard Gasquet. Juste son sentiment après cette défaite face à Nadal à Rome. Et il tirait bien sûr le bilan positif de cette semaine et donnait rendez-vous pour Roland Garros. C'était au micro de Georges Hemsi.
J'ai vraiment fait des trucs énormes. Mon premier set, un revers. Donc, aussi, j'ai quand même eu un très bon niveau de jeu. Donc, je vais essayer de rester là-dessus. J'ai fait un grand tournoi. J'ai quand même battu Federer Berdy. J'ai accroché Nadal au premier set. Donc, en sentant que je joue vraiment un bon tennis. Donc, effectivement, très bon. C'est clair que la semaine a été super pour moi. Il faut que j'arrive en forme. Il faut que je récupère aussi. La semaine a été difficile. Donc, voilà, récupérer, bien s'entraîner. C'est sûr que je me sens bien. J'ai pas une pression particulière non plus à Roland Garros. Je pense que je vais pas me focaliser que sur Roland Garros. L'année continuera quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, je suis vraiment très heureux de jouer à Paris. C'est quand même de belles sensations. Jouer devant le public à Paris, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
RTL équipe, carrément tennis.
Il va être très attendu, Richard Gasquet, du côté de Paris, de la Porte d'Auteuil, coup d'envoi du tournoi dimanche. Un tournoi, bien sûr, deuxième levée du Grand Chelem de la saison. On va revenir dans quelques minutes sur le duel peut-être tant attendu, là aussi, entre Nadal et Djokovic, qui devrait, selon toute vraisemblance, se retrouver en finale. Mais on n'est pas à l'abri de surprise, heureusement, à Roland-Garros. C'est ça la magie du tennis. Le format des 3-7 peut changer beaucoup de choses. Nous avons la chance de recevoir Christophe Chenu, le directeur général de Lacoste, ce matin. Lacoste marque partenaire historique de ce tournoi, 40e anniversaire cette année. J'imagine qu'il va se passer plein de belles choses pendant cette quinzaine. Vous allez peut-être nous donner quelques petits indices. Qu'est-ce que vous nous préparez de beau, Christophe Chenu, pour ces 40 ans de partenariat?
Ah ben bah malheureusement je peux pas vous donner grand chose parce que c'est des surprises, donc si je les révèle sur l'antenne de RTL l'équipe qui est repris et dès le lendemain sur RTL ou immédiatement sur RTL puis sur l'équipe, tout le monde va connaître nos surprises. Donc c'est vrai que première chose, on est effectivement le plus ancien partenaire commercial du tournoi. On est celui qui est aussi le plus naturellement associé, c'est-à-dire que dans toutes les études marketing qui sont faites, les gens associent Lacoste et Roland Garros de façon totale et avant toute autre marque. C'est assez logique parce qu'en fait on est partenaire depuis 80 ans de ce tournoi, puisque le stade a été construit en 1928 pour que les mousquetaires, dont René Lacoste entre autres, viennent défendre leur titre de Coupe Davis. Donc il y a la place des mousquetaires, il y a la tribune René Lacoste. Enfin, on est vraiment, la marque Lacoste est vraiment chez elle sur ce site. On est d'ailleurs très très heureux qu'il reste à Paris. Pour nous, c'était vraiment essentiel que ce site reste le site du tournoi. On a beaucoup argumenter autour de ça, nous, lorsqu'on nous demandait notre avis. Alors après, c'est vrai que 40 ans, bah, c'est un chiffre rond, ça se fête. On a prévu un certain nombre de petites festivités, une lundi matin, dès l'ouverture du tournoi, pour marquer le coup. On a deux, trois partenariats, un produit qu'on va annoncer également un peu nouveau, et à la fois nouveau et très ancré dans notre histoire. Des soirées, bien évidemment, des fêtes aux Galeries Lafayette également à Paris. Donc on a beaucoup de choses qui sont prévues pendant la quinzaine. On va terminer assez rincé. Nous, on est certain d'être très fatigué à la fin du tournoi, parce que quoi qu'il arrive, on fera les 15 jours. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui sont prévues.
40 ans, on dit que c'est parfois un cap difficile à passer pour les hommes, mais heureusement, Lacoste ne s'intéresse pas qu'aux hommes, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux plus anciens, à tout le monde. Il va falloir en trouver pour tout le monde. Alors, avec toujours cette classe, ce classicisme que certains d'ailleurs critiquent parfois parce qu'on dit, bon voilà, c'est pas très novateur, mais c'est difficile pour une marque comme Lacoste de garder ce côté historique tout en évoluant.
Je dirais que c'est notre marque de fabrique. On considère qu'on n'est pas une marque de mode, mais une marque de style. On a des codes graphiques qui sont extrêmement précis et depuis des décennies, et qu'on renouvelle au goût du jour, collection après collection, année après année, avec nos directeurs artistiques. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec la segmentation de notre offre, avec notamment le lancement de Lacoste Live, on a des parties de nos collections qui sont très très jeunes, très mode, branchées également. Donc, je dirais que chaque type de clientèle peut y trouver largement son compte. Et d'ailleurs, pour les 40 ans, nous avons sorti une capsule, ce qu'on appelle une capsule, quelques produits spécifiques qui s'inspirent de notre histoire avec la reprise de visuels publicitaires d'il y a une trentaine, quarantaine d'années sur des t-shirts hommes-femmes et puis des polos spécifiques qui vont célébrer ce 40e anniversaire qui seront commercialisés à Roland-Garros. Donc il y a un renouvellement permanent et c'est une marque qui continue de se développer très fortement dans le monde entier.
L'évolution justement grâce au tennis féminin, là on peut peut-être aussi, chez les garçons il y a le polo bien sûr classique hein, qui évolue, qui change avec des liserés, pas de liserés, des couleurs qui évoluent. Est-ce que chez les filles on a un petit peu plus de facilité à faire des choses différentes ou là aussi on essaye de conserver quelque chose de relativement classique?
On garde vraiment, on a cette volonté en fait par rapport à d'autres marques qui sont dans le sport, qui sont sur des tendances très colorées, très bariolées. Nous on a cette volonté de classicisme parce que ça fait partie de notre esthétique depuis la création de la marque. Donc c'est vrai qu'on retrouve, si on prend les tenues vestimentaires des hommes ou des femmes, on retrouve des codes que vous pouviez trouver sur les tenues vestimentaires des hommes et des femmes qui jouent au tennis dans les années 60-70. Alors évidemment avec un fit différent, des matières différentes, des coupes différentes. Tout ça a évolué, mais on va dire le style général,
la ligne directrice,
reste relativement inspiré de nos codes.
Myrtille ?
Oui, non, en fait, c'est marrant, on parle du classicisme de la marque, ce qui est vrai, mais il faut savoir que René Lacoste, le joueur, était tout sauf classique, c'est-à-dire c'était un inventeur et c'est quand il a créé cette marque, on rappelle que c'est lui qui, le premier, s'est servi d'un grip sur un manche de raquette, qu'il a créé... parce qu'il voulait s'entraîner au Smash, la fameuse machine lance-balles, que c'est lui qui avait demandé qu'on lui crée spécialement pour la tournée américaine une chemise sans manches avec cette maille et qui a eu le crocodile en rapport cousu dessus en rapport à son surnom l'alligator. Et c'est marrant de se dire voilà, ce garçon était connu comme un créateur, lui disait bricoleur, je crois. Il aimait bien ce côté-là. Et de voir que voilà, c'est quelqu'un qui a inventé, qui a donné une marque qui aujourd'hui est connue comme étant la marque classique du tennis.
Ben oui, parce qu'en fait, alors moi j'ai coutume de dire qu'il a été 5 ans tennisman et 50 ans inventeur. Donc c'est vrai qu'il est connu comme tennisman, mais il a un nombre d'inventions, vous en avez rappelé beaucoup, l'antivibrateur, le grip, la raquette métal, la machine à lancer des balles, et j'en passe. On a un bouquin épais comme ça de ses brevets à l'INPI. En même temps, il a totalement révolutionné tout, puisqu'il a créé le polo, le logo, le sportswear finalement, il a créé le sponsoring sportif, puisque c'est lui qui a commencé à faire habiller des sportifs avec un vêtement où il y avait un logo visible. Il a finalement créé énormément de choses, mais à une époque où l'esthétique était très classique malgré tout. Et en fait, les codes de la marque datent des années 30. Et le style du tennisman ou du golfeur des années 30 était à cette époque-là extrêmement chic et élégant. Il le révolutionne en coupant les manches, en mettant ce petit piquet de coton qui effectivement, même à l'époque, crée scandale puisqu'il a failli être refusé d'accès à certains tournois parce qu'il n'avait pas la chemise à manches longues de rigueur. Mais il le révolutionne tout en restant très élégant. Et ces codes-là, on les a gardés au fur et à mesure des années. Et on le voit, c'est ce qui fait aussi vraiment notre force, cette constance dans le respect des codes graphiques et de l'esthétique classique de la marque.
Est-ce qu'on oublie un petit peu, quand on évoque Lacoste, on se dit par rapport aux mastodontes de la communication mondiale que sont les marques plus jeunes, on va dire, Lacoste a une image à l'étranger qui est exceptionnelle et finalement l'hexagone, la France, représente qu'une toute petite partie du marché. Nous, on a l'impression parfois, les observateurs extérieurs, voilà, que Lacoste est en France et bon voilà.
Alors effectivement, c'est très important de dire ça, c'est que en France, tout le monde connaît Lacoste, tout le monde connaît René Lacoste, tout le monde a vu des polos Lacoste sur son père, son grand-père, donc on a vécu avec ça, on a grandi avec ça, et Lacoste est très associé d'ailleurs au tennis ou au tennis et au golf. Mais la France ne représente que 9% du chiffre d'affaires de Lacoste, qui fait donc 91% de son chiffre d'affaires dans les 114 autres pays où nous sommes présents. Et si on s'éloigne un tout petit peu de l'Europe occidentale, parce que Lacoste s'est développé assez tôt en Italie, en Espagne et dans ces pays-là, si on va vers le Brésil, si on va vers l'Asie, là l'image de Lacoste est très différente. D'ailleurs, notre objectif, c'est de rappeler cette histoire que le Brésilien de 20 ans ne connaît pas, que le Chinois de 25 ans ne connaît pas. Il ne connaît pas René Lacoste, il ne connaît pas Catherine Lacoste, grande championne de golf. Donc on utilise d'ailleurs ces partenariats sportifs pour communiquer sur l'histoire et l'héritage de notre marque, parce que c'est quand même ce qui fait notre différence avec tout un tas d'autres marques. Les gens sont avides d'acheter des marques qui ont une histoire vraie, On en a une exceptionnelle, donc il faut la raconter. Mais c'est très important de la raconter tous les ans, régulièrement, et Roland Garros nous sert à ça. Parce qu'une fois de plus, dans 114 pays dans le monde, c'est pas si évident que ça, que René Lacoste était tennisman, qu'il était inventeur, que le polo a été inventé par lui et non pas par quelqu'un d'autre aux États-Unis. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer à ces nouveaux pays, ces nouvelles clientèles, qui représentent 91% de notre chiffre.
Et les sportifs que vous équipez, dont vous êtes partenaire, est-ce que là aussi c'est un choix? Il faut à la fois avoir les performances sportives, bien évidemment, mais aussi une certaine, discrétion, représentation. Quand on imagine un Richard Gasquet, Samantha Stosur, pour évoquer les deux qui ont des gros résultats en ce moment, c'est vrai que Samantha Stosur, par exemple, elle est extrêmement discrète. Alors sur le court, on a l'impression un petit peu que c'est un Robocop, En fait, pas du tout dans la vie. Donc c'est vrai, est-ce que ça, c'est important l'image que renvoie le sportif?
C'est évident qu'on est, à la fois à la recherche de sportifs qui ont qui font des performances, parce qu'on a envie que nos sportifs soient visibles dans les médias, mais en même temps on est surtout à la recherche de personnalités qui fonctionnent bien avec la marque. C'est vrai qu'on est une marque qui a des valeurs au-delà de la simple performance. René Lacoste était très performant, mais un peu l'air de rien, on va dire. C'était pas non plus quelqu'un qui était sur un court. Alors il était très bagarreur, ça c'est vrai, mais donc on recherche des personnalités. Après ça, il y a un autre point qui est très important pour nous, on l'a évoqué, c'est la représentation des principaux marchés de la marque. Andy Roddick est chez nous depuis 2004 parce que les États-Unis sont notre premier marché. Alors Andy, en plus, a une personnalité, c'est quelqu'un en plus qui a vraiment beaucoup d'humour, qui est vraiment charismatique au-delà de son sport. Mais il est depuis maintenant 2004 le premier tennisman américain au classement. Il est dans le top 10, il en est sorti récemment, mais depuis cette période-là. Mais aux États-Unis, c'est un personnage important. On vient de signer Milos Raonic, c'est important pour notre marché canadien. On est toujours à la recherche, évidemment, d'un sportif chinois ou japonais, parce que c'est des marchés importants. Donc on essaye de trouver des sportifs, des tennismen, des golfeurs, qui aussi sont les représentants de marchés importants pour la marque.
Même si on ne peut pas tous les avoir, est-ce qu'on se dit tiens, on a raté un Nadal, on a raté un Djokovic, ou on va essayer peut-être, pourquoi pas, un jour de les avoir? Ou est-ce que vraiment, bon, c'est le jeu, hein, bien sûr, on les a pas tous. Hein.
On en a raté plein, on en ratera encore plein, parce que nous ne sommes pas les seuls, parce que nous ne sommes pas les plus riches, et puis parce que il y a d'autres marques qui travaillent très très bien sur ces sujets-là. Donc on a effectivement des joueurs qu'on a souhaité avoir. Très récemment, on a essayé d'avoir Joe Wilfried Tsonga, ça n'a pas été possible. On a eu par le passé d'autres sportifs qu'on a ratés, parfois de notre fait d'ailleurs, parce qu'on n'y a pas cru. Et puis bah voilà, ils sont devenus très forts.
C'est difficile de trouver.
C'est le sponsoring sportif, c'est un mélange d'un choix qu'on voudrait faire et d'un choix qui est possible de l'autre côté. Il faut que le sportif soit libre. Souvent, il est dans une période contractuelle, il faut attendre la fin du contrat. Et puis il y a des concurrents qui sont, une fois de plus, parfois plus riches, parfois très attachés aux sportifs en question. Donc on n'est pas dans un domaine où on décide véritablement de ce que l'on veut faire. C'est pas comme de la pub.
J'aurais une petite question par rapport à le personnage. Est-ce que vous allez vraiment sur une image, comme vous dites, de l'élégance d'un joueur ou d'une joueuse ou d'un sportif en général qui colle beaucoup plus à la marque qu'à une autre? Ou c'est juste une question aussi d'affinité par rapport au pays, par rapport à l'implantation de Lacoste?
On essaye vraiment de mixer trois choses. C'est la performance sportive, réel ou potentiel, parce que parfois on prend un jeune joueur en se disant il a un avenir, c'est le cas de Milos Raonic par exemple. Le style, le style, alors pas du joueur, mais le style de la personnalité, et puis sa nationalité. C'est les trois éléments qu'on essaie de mixer. Alors après, c'est vrai qu'on peut pas leur demander en permanence d'être tous souriants, on peut pas leur demander en permanence d'être toujours super élégant. C'est d'abord les deux choses qui sont des constantes, c'est le sport et la nationalité qu'ils ont. La partie intermédiaire, c'est-à-dire l'élégance, le sourire, la personnalité qui s'adapte bien à la marque, bah selon les périodes de la vie d'un sportif, il a plus ou moins envie de se marrer, hein, selon ses résultats, selon sa vie personnelle. Donc ça, c'est des choses qui sont plus évolutives. On essaye aussi vraiment de les accompagner dans les moments sympas comme dans les moments difficiles, parce que ça fait partie de l'éthique de Lacoste également, d'être dans un partenariat de longue durée.
Lacoste, partenaire privilégié et historique de Roland Garros, qui fête donc ses 40 ans de partenariat. À découvrir toutes les surprises pendant la quinzaine, on l'a bien compris. Rendez-vous dès lundi matin, apparemment, si j'ai bien compris.
Ouais.
Moi, je vous dis, allez vers la place des Mousquetaires. Voilà, je peux juste dire ça.
Ouais, c'est bon. Ouais.
Hein,
c'est bon.
Allez, je vais pas plus loin. Il faut quand même que je donne un indice. Ouais. Pointez-vous à la place des Mousquetaires lundi matin. et vous aurez peut-être de belles surprises. Merci beaucoup à Christophe Chenu en tout cas d'être venu jusqu'à nous pour évoquer ces 40 ans de partenariat de la marque Lacoste avec Roland Garros. Dans une minute, juste après les infos d'Audrey Seigneur, nous allons revenir bien sûr sur la finale notamment du tournoi de Rome et cette victoire nouvelle de Djokovic face à Rafael Nadal. Le point sur les forces en présence à quelques jours du début de Roland Garros. Nos Français, les meilleurs, Roger Federer, Nadal, Djokovic, qui donc Del Potro sera là. Ça c'est la bonne nouvelle également du jour, découverte sur Twitter ce matin. Juan Martín Del Potro a annoncé qu'il serait bien à Paris, l'Argentin qui était un petit peu incertain après ses nouveaux pépins physiques dont il a du mal à se sortir. Et puis chez les filles, Francesca Schiavone, l'Italienne, arrive avec toute la pression du monde après son titre surprise de l'an dernier. C'est pour ça qu'elle n'arrivera que tardivement du côté de Roland-Garros pour défendre son titre, l'Italienne, remporté l'an dernier de haute lutte face à Samantha Stosur. Mais c'était une belle victoire pour Francesca Schiavone.
RTL L'équipe,
croisée courte gagnante,
Clément Tennis,
superbe attaque de coup droit,
Eric Silvestro.
La deuxième partie de Carrément Tennis consacrée bien sûr à quelques jours du début de Roland Garros, aux résultats et aux forces en présence. On va revenir longuement dans cette deuxième partie sur le parcours incroyable de Novak Djokovic, vainqueur encore après Madrid du tournoi Master 1000 de Rome, une nouvelle fois en finale contre Rafael Nadal et avec un score encore plus avantageux en faveur de Novak Djokovic, qui s'est fait une frayeur en demi-finale la veille au soir face à Andy Murray, mais qui semble indestructible mentalement, physiquement, tennistiquement. Alors peut-il caler au plus mauvais moment Novak Djokovic à Roland-Garros? On va essayer de répondre à cette question. Rafael Nadal va-t-il reprendre les rênes justement sur les cours de la Porte d'Auteuil, ou assiste-t-on à un passage de témoin? Ce pourrait être bien sûr à Roland-Garros, la place de numéro 1 mondial qui a échappé à Djokovic à Rome pour quelques centaines de points. Devrait peut-être, pourquoi pas, lui revenir dans l'escarcelle du côté de Roland Garros. On reviendra également sur le retour au premier plan de Maria Sharapova. On sait qu'il y a beaucoup d'absents pour Roland Garros du côté des filles. Et bien pourquoi pas, Maria Sharapova, même si la terre battue n'est pas sa surface, et bien elle s'est rappelée au bon souvenir de tout le monde en remportant le tournoi de Rome. Justement, il ne faut pas non plus condamner les finalistes de l'an dernier, Samantha Stosur, et celle qui a gagné, Francesca Schiavone, l'Italienne, malgré toute la pression qui incombera à la défense de son titre. Et puis dans le rang des Français, pour l'instant, ils sont en train de se bagarrer en qualification qui ont débuté hier. On est déjà au troisième tour pour les garçons, avec notamment David Guez et Stéphane Robert qui tenteront de rejoindre le tableau final. Tableau final où on attend beaucoup des Français, mais quid pour Gaël Monfils qui arrive quasiment sans préparation, et pour Joël Fritz, son gars, qui n'a pas misé grand-chose sur ce Roland Garros.
RTL L'équipe, Carrément Tennis.
Toujours en compagnie de Julien Varlet, de Myrtille Rambion et de Clément Grèze pour ce Carrément Tennis spécial à 3 jours du début de Roland Garros. Je voudrais vraiment qu'on s'attarde, parce qu'on ne l'a pas fait dans la première partie de l'émission, mais à force de le faire toutes les semaines, on va finir par se répéter. Novak Djokovic demeure invincible, messieurs, dames. On se disait qu'il avait peut-être tort d'aller jouer à Rome après avoir gagné Madrid. Eh bien, il nous a une nouvelle fois fait mentir en remportant coup sur coup ses deux Master 1000 sur terre battue. Il vient d'enchaîner donc 3 semaines d'affilée avec le tournoi de Belgrade chez lui. Il a sa petite semaine de coupure avant Roland-Garros et il a donné une nouvelle preuve de sa forme éblouissante, Julien Varlet, du côté de Rome. Là, il n'y avait plus d'excuses d'altitude qu'on avait avancé tout doucettement pour Rafael Nadal. Là, il n'y a pas d'altitude à Rome. La terre battue est normale, très proche de celle de Roland-Garros. Et pourtant, une nouvelle fois, Nadal est obligé de s'incliner face à Novak Djokovic, qui semble vraiment intouchable. L'est-il vraiment ?
Ben, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il ne l'est pas. Donc oui, il est intouchable. Maintenant, au moment ou à un autre, il va avoir un petit coup de mou. Mais moi, je repense à la phrase qu'il avait dit durant l'Australian Open. Pour lui, l'Australian Open n'était pas le premier grand chelem de la saison, mais le dernier. Donc il a eu le temps après de pouvoir récupérer un peu après l'Australian Open. Et puis mine de rien, il n'a pas joué tant de tournois que ça. Mais bon, il est allé à chaque fois au bout. Donc ça prouve vraiment sa qualité. Et puis une fois de plus, moi, il m'a épaté sur la finale en niveau tactique. C'est son replacement que je trouve qui a complètement changé il y a encore quelques temps sur terre battue, où il joue beaucoup plus près de sa ligne de fond de court et il subit pas les énormes effets de Rafael Nadal avec les trajectoires très sortantes.
Il fait penser à un Davydenko des bons jours, mais avec la puissance en plus, Myrtille. au niveau du placement sur le terrain.
J'ai trouvé très très offensif, effectivement. Enfin, offensif, il fait pas du service volé à tout va, hein, mais c'est vrai qu'il est, il est beaucoup plus près de sa ligne de fond. Ce revers toujours fantastique quand il le joue comme ça à hauteur d'épaule, c'est incroyable. Le replacement terrible. Et puis dans la tête, on avait parlé la semaine dernière de ces bandes qu'il prenait là pour gagner à Madrid. Voilà, il est en confiance, donc plus il est en confiance, plus il gagne. C'est une espèce de cercle vertueux. Maintenant, attention, à Rome, il n'est pas passé loin du tout de la sortie. On a vu un Andy Murray qui est revenu vraiment à un très très haut niveau. Il y a un moment où ça va craquer et il y a un moment où peut-être s'il faut gagner le troisième set, ça va être un petit peu plus compliqué.
Mais ce refus de la défaite, notamment dans le match contre Andy Murray où il passe quand même donc trois fois à deux ou trois points de la défaite, et on sent bien qu'il est...
C'est sa mentalité, c'est exceptionnel, ça y est, c'est un champion en vrai.
C'est un refus de reculer, c'est un refus de la défaite, c'est en fait son jeu est la preuve de ce qu'il est depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il refuse de perdre. Exemple Andy Murray, il refuse de reculer face à des gros cogneurs, face à Rafael Nadal qui devrait normalement le sortir du terrain, le sortir de sa ligne de conduite. Il refuse et du coup, il adopte ce tempérament hyper offensif, c'est-à-dire c'est lui qui va repousser Rafael Nadal avec des prises de risque parfois considérées comme insensées. Enfin, je me souviens notamment la finale à Madrid, c'est juste exceptionnel en termes de prise de risque ce qu'il réussit à faire. Et puis comme il est en confiance, comme il est particulièrement talentueux, tout rentre, il en profite, c'est la période de sa vie. Est-ce que ça va durer jusqu'à Roland, effectivement, ou pendant 3 sets, faudra être à ce niveau-là ?
Et pendant 15 jours.
Ouais, mais sauf que pendant une semaine et demie, il va se balader. Donc, c'est surtout pendant 2 jours qu'il
c'est
va falloir
être. C'est pour ça qu'il faut attendre le tirage au sort demain. Moi, je ne donnerai pas de favori aujourd'hui. J'attendrai le tirage au sort pour voir un petit peu comment ça peut...
Alors, bien sûr. Bon, favori, de toute façon, c'est clair. Ouais, non, c'est Nadal et Djokovic, les deux favoris, parce qu'ils ont tout écrasé.
Il y a Tsonga qui veut jouer la finale aussi.
Sur terre battue, ils ont tout gagné. Tsonga veut jouer la finale.
Il a dit, Il a dit, moi, mon objectif, c'est quart, demi, voire finale.
Oui,
très ou mieux.
Bien. Tant mieux.
Ou mieux. Non, mais il a dit ça, c'est véridique.
Très bien. Non, mais il est sûr de lui, c'est tout à son honneur. Bon, on va être plus prudent en ce qui concerne Joe Wilfried Tsonga, mais pourquoi pas. Nous ne sommes pas à l'abri d'une belle surprise. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne. Alors, je vais jouer vraiment l'avocat du diable pour aller chercher le grain de sable qui pourrait faire dérailler cette machine Djokovic, dont je suis vraiment, comme tout le monde, en admiration devant ce qu'il fait. J'ai envie de vous dire qu'il a quand même la baraka du mec à qui tout sourit.
Mais comme tous les gars qui, à un moment, sont
réussis
comme ça.
Voilà. Mais je prends deux exemples sur ce tournoi de Rome. D'abord, le jeu à 6-5 en faveur, à 5-4 en faveur d'Andy Murray lorsqu'il sert pour le gain du match. En demi-finale, il y a 15-0 pour Andy Murray, donc il est à 3 points du match. Et là, le deuxième point du jeu, qu'est-ce qui se passe ? L'aide de Djokovic qui retombe
la bande encore
derrière le filet. Mais, truc imparable et vraiment au moment, parce que sinon, 30-0, ça commence vraiment à devenir très très compliqué. Et bon, le let intervient au bon moment, mais parce qu'il prend le risque, parce qu'il provoque, la bande est avec lui. Ok, on se souvient qu'à Madrid, au premier set, quand Nadal revient 5 partout, il en prend 2 d'affilée de let à ce moment-là. Donc ça, premier exemple. Deuxième exemple, par rapport à la finale qui devait se jouer à Rome aux alentours de 16h, au soleil, en diurne, donc en journée. Il avait fini la veille à 1h du matin son match contre Murray, en nocturne. Et c'est vrai que le temps de récupération était extrêmement court pour la finale. Et les conditions de jeu, en plein jour, en plein soleil, sur une terre battue extérieure, sans altitude, était un petit peu l'avantage de Nadal. Boum, qu'est-ce qui se passe ? Orage le dimanche, pluie, terre alourdie, match repoussé de 3 heures, et on se retrouve dans des conditions quasi nocturnes, avec une terre battue plus lourde, et donc, non pas à son avantage, mais un petit peu au désavantage de Nadal. Donc, très bien, et c'est pas lui qui a provoqué l'orage, mais tout se goupille bien, quoi, jusqu'à la météo et aux bandelettes. Ça, c'est hallucinant quand même.
Ouais, après, voilà, comme on le dit, c'est le sport, je dirais pas le joueur, mais le sportif en pleine réussite, à qui tout réussit. Maintenant, à un moment ou un autre, il va avoir un coup de pompe, c'est pas possible autrement. Donc, est-ce que ça va être sur Roland ? Est-ce que ça va être un peu plus tard ?
Coup de pompe physique, là, je rejoins Clément, il n'a pas joué tellement plus que les autres, et notamment pas plus que Rafael Nadal, puisque Nadal a joué le même nombre de matchs que lui à chaque fois, puisqu'ils se sont retrouvés en finale. Souvent, d'ailleurs, le parcours de Nadal a été bien plus chaotique.
Ouais, mais ça puise quand même pas mal d'énergie de se dire, voilà, je suis en train d'approcher un record, j'approche de la place numéro 1 mondiale, j'enchaîne, je gagne. Ça
pompe
quand même
pas
mal. Il y a
le record de McEnroe.
Il en est à 37 matchs consécutifs en début de saison, Novak Djokovic. Le record de McEnroe, c'est 42. Donc, il faut qu'il arrive en demi.
Il
faut qu'il gagne 5 matchs.
Ouais, mais moi, je reste quand même sur l'image de l'année passée où en quart de finale, il mène 2-7-0 et il fait ce qu'il veut de Jürgen Melzer et il se retrouve à perdre en 5-7.
Mais est-ce qu'il n'est pas à l'abri de ça aujourd'hui ?
Mentalement, je pense qu'il l'est. Maintenant, voilà, c'est quand même, c'est en 5-7. Alors, c'est vrai que la première semaine, logiquement, devrait plutôt pas trop mal se passer, mais c'est quand même un tournoi qu'un joueur avec les quelques petites sollicitations à droite à gauche. On l'a vu sur le journal, le grand journal à Cannes, cette semaine. Voilà.
Ah, il a déclaré forfait à l'exhibition de Marie-Cor à Rueil, ouais, qu'il devait jouer cet après-midi notamment. Il a déclaré forfait. Ouais, puis, fatigue générale.
Puis il a quelqu'un qui s'occupe de sa diététique et de sa préparation physique de façon très, très optimisée. Donc, je pense qu'on est. Alors, on le verra plus craquer comme avant, mais on rappelle aussi que, par contre, Rafael Nadal, on l'a pas encore vu
au top.
Un peu mieux à Rome.
Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la poignée de main à la fin.
Ah, c'est très chaud.
C'est plus les mêmes poignées de main qu'il y a quelques temps.
Non, et d'ailleurs,
c'est
Nadal.
Plutôt froid.
D'ailleurs, Nadal, qui est réputé, et on le dit souvent, pour être un garçon vraiment extrêmement fair play. Voilà. Là, il a quand même, donc il y a la poignée de main déjà qui commence, il commence à me saouler celui-là toutes les semaines. Et puis il y a des déclarations aussi où il dit Rafael Nadal, bon Novak joue un tennis incroyable, hein, mais en gros ça va pas durer éternellement quoi.
Mais il fait face à ce au genre de questions auxquelles Roger Federer a dû répondre pendant des années à cause de lui. Mais donc Rafael Nadal pas au top encore. Et il y a une chose qui va être intéressante à voir, parce que est-ce que vous vous souvenez des déclarations de Tony Nadal, le tonton et coach de Rafa, qui après ce premier tour à Rome, on s'est tous dit mais qu'est-ce qui se passe, parce qu'il a quand même bien galéré pour gagner son premier tour. Et en fait il était malade, Rafael Nadal, il avait la fièvre, une angine. Et Tony a dit, moi je lui ai déconseillé de jouer, parce que souvenez-vous l'année dernière, il a joué en étant malade, et voilà derrière, il a pas bien récupéré, il a perdu
il y a deux ans,
il avait perdu effectivement le tournoi, et derrière à Roland-Garros, il avait perdu contre Söderling. Donc on va voir, parce que Tony avait dit non, ne joue pas, Rafa a joué quand même, il perd en finale.
Mais il voulait pas la perdre, cette place de numéro 1. Il voulait quand même arriver à Roland en numéro 1. Ouais, il fallait qu'il atteigne au moins la demi-finale pour ça.
Comme souvent, c'est tout à son honneur, mais peut-être au détriment de quelques semaines après, avec une récupération qui est moins importante. Je veux dire, maintenant, quand on voit la préparation physique et comment est physiquement Djokovic, parce que c'est plus qu'un avion, on se dit que maintenant, souvent, des personnes qui sont un peu hors du sport ou des médecins disent que voilà, c'est des Formule 1. Ben là, je pense qu'on est vraiment plus que la Formule 1.
Justement, vous allez dire encore que je suis l'avocat du diable, mais Novak Djokovic a perdu du poids, il est extrêmement fin, extrêmement fit, extrêmement affûté. On sait qu'il y a donc ce régime anti-gluten, sans pâtes, sans pain, qui lui posait beaucoup de problèmes apparemment par le passé.
Moi j'ai quand même
envie de vous dire que si Rafael Nadal avait enchaîné le nombre de matchs qu'il a enchaîné, la façon dont il les a enchaînés avec toutes les circonstances, on aurait tout de suite dit oulala. Et là, j'entends peu de voix s'élever sur ce nouveau médecin fabuleux qui a trouvé les allergies de Novak Djokovic. Alors tant mieux, moi je dis pas du tout qu'il y a baleine sous caillou dans cette affaire, mais est-ce que on peut quand même se poser la question, ou alors est-ce qu'au contraire...
Mais non, mais vous savez très bien, Eric, pourquoi? C'est parce que toujours de l'extérieur, ah oui, mais bon, Roger Federer ou Novak Djokovic, voilà, ils sont tout fins à la base, donc personne va aller essayer de gratouiller en disant c'est une constitution anormale.
Faut-il gratouiller?
Non. Non, parce que sauf si vous m'apportez des preuves.
Tant mieux, tant mieux.
J'ai déjeuné avec Gilles Simon, c'est quand même quelque chose aussi. Hein. Parce qu'il mange quand même comme 12 et puis il est comme ça.
Ouais, mais il n'a pas les résultats.
C'est injuste. Hein.
Non, c'est vrai.
Mais
moi, sincèrement, j'en discutais avec.
Moi, j'aimerais bien manger.
Je lui dis, non, mais c'est hallucinant, sans déconner. Comment tu fais pour frapper aussi fort et être aussi mince, quoi? Parce que sincèrement, quand on regarde. Il me dit, ah si, il me dit, le seul endroit où je suis gras, c'est au niveau des triceps. Je fais ma punaise.
Ouais, moi c'est le seul endroit où je suis pas gras, je pense. Non mais bon, c'est vrai que moi, il faut quand même se poser la question. Le mec, il enchaîne 3 heures à Meuret à 1 heure du matin, le lendemain il est... Enfin, c'est...
Voilà, de toute façon, personne ne peut prétendre qu'un sportif de haut niveau récupère comme vous et moi.
Non mais ça d'accord.
C'est impossible, et qu'il boit de l'eau claire et qu'il mange
là,
des pâtes sans
beurre. Là il rentre chez lui à Monaco, il va à Cannes, il revient à Paris. Enfin,
après
le mec,
c'est une préparation optimisée. Ouais.
Après il est dans des dispositions plus qu'optimales. À Cannes,
il n'a pas bu de champagne. Hein.
Il a fait l'aller-retour en hélicoptère. Voilà, je veux dire, il est quand même préparé. Il est dans des dispositions plus qu'exemplaires.
Pour y aller, quoi. Voilà, a priori, quoi. Il a la place pour étaler ses jambes.
Voilà, il y a ça.
Il n'est pas en place économique, vous voyez.
Enfin, c'est pas l'enfer, quoi.
Donc, il y a quand même pas mal de circonstances qui font qu'il est vraiment chouchouté. Maintenant, c'est vrai que voilà, l'accumulation des matchs, le stress. Moi, je trouve qu'il est plus que très, très, très bien préparé par rapport à d'autres qui sont à son niveau, mine de rien, qui ont, voilà, ont des petites douleurs par-ci par-là et qui surtout récupèrent beaucoup moins bien entre les matchs.
Au-delà de sa forme physique et de sa capacité à récupérer d'un jour sur l'autre, ce qui est impressionnant pour l'instant chez Novak Djokovic, c'est qu'on a l'impression que depuis mi-novembre, il est sensiblement le même. Il est sur la même dynamique. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire qu'il n'a plus perdu un match depuis...
le Masters.
Depuis le Masters en l'occurrence, donc depuis début décembre, il n'a plus perdu un match. On a l'impression qu'il est fit de la même manière aujourd'hui au mois de mai qu'il l'était au mois de décembre quand il a balayé l'équipe de France en finale de la Coupe Davis. On a l'impression qu'il n'y a pas de trou. Il s'arrête deux semaines, il revient, il est pareil. Il n'a pas pris un gramme, il joue le même tennis. Il s'arrête deux semaines, il change de surface, et pareil, il joue le même tennis, il ne bouge pas, même efficacité, même dynamique, etc. C'est ça qui est impressionnant. C'est que là, ça commence à durer, quoi. Ça fait mi-mai, ça fait donc 6 mois et demi maintenant, et qu'il est sur cette dynamique. Là, qui prend pas un pet de graisse, qui joue le même tennis, quelle que soit la surface, c'est là où il est impressionnant. Et c'est vrai que si ça dure longtemps, enfin voilà, je.
Non, mais après, comme a dit Nal, le plus dur c'est d'y rester. Alors peut-il encore tenir au moins 15 jours? Parce que si déjà il gagne aussi Roland Garros, bon, ça sera énorme quoi.
Il gagnera pas Wim. A priori.
Et pourquoi pas?
Parce que c'est pas possible.
Et pourquoi c'est pas possible?
Parce que
qu'il peut pas gagner.
Il peut pas gagner, oui.
Est-ce qu'on disait il y a 6 mois, il peut gagner Roland?
Oui.
Il a quand même déjà fait quart, demi.
Ouais, mais on disait aussi que le printemps, le soleil, les allergies, Nadal. On disait que non, je suis désolé.
Mais en tout cas, moi, je le vois pas gagner Roland.
Moi non plus.
Voilà.
Nous sommes deux.
Au moins.
Qu'en penses Merti, toi?
Oh, moi, je le vois très bien gagner Roland. Maintenant, j'ai pas dit que c'est là où mon cœur penchait.
J'ai pas dit que c'était mon chouchou.
C'est ça.
Alors, en tout cas, s'il continue à jouer comme ça, il y a aucune raison qu'il ne le gagne pas.
Je le visualise très bien en train d'embrasser la coupe. Il y a aucun problème.
Ah bah ça il va pas se gêner. Hein. Ça va pas être un problème pour le chouchou.
Il va mettre la langue là.
Ah ouais, il va faire tout ce qu'il faut. Mais alors, peut-il jouer comme ça sur 15 jours, sur un format de 5-7?
Oui.
Alors attention, ça va dépendre aussi bien sûr de lui, mais ça peut dépendre aussi beaucoup de Rafael Nadal, qu'on a en effet pas encore vu au mieux sur terre battue, qu'on a vu quand même aborder le match de Rome tactiquement légèrement différemment, c'est-à-dire qu'il est allé beaucoup plus chercher le coup droit de Djokovic qu'il ne l'avait fait à Madrid. Alors ça lui a pas forcément réussi, en tout cas sur ce match à Rome, parce que Djokovic était immense aussi en coup droit, mais on avait Nadal quand même un peu plus agressif, venir un peu plus au filet. Alors bizarrement, le score est encore plus sévère qu'à Madrid, mais moi je trouve quand même que dans l'approche tactique du match, Nadal est plus intéressant à Rome qu'à Madrid.
Cela dit, une fois de plus, ça prouve que l'intelligence de Rafael Nadal de chercher, même s'il se trompe, ben voilà, il va chercher autre chose. Il va pas comme un certain Roger Federer qui garde un peu son cap et qui voilà, lui cherche, mais pour l'instant, il est confronté à un mur.
Ouais, mais la terrible nouvelle pour Rafael Nadal, c'est que il a pilonné le revers en finale à Madrid. Ça marchait pas. Ensuite, il a décidé de pilonner le coup droit.
Ça marche pas non plus.
Ça marche pas non plus. Et le pire du pire, c'est qu'à Madrid, on commentait la finale, Eric, et on se disait, mais pourquoi il cherche le revers? Pourquoi il va pas sur le coup droit? C'est quand même évident que Djokovic, il est moins en réussite en coup droit qu'en revers. Donc, Tony et Raphaël, ils se réunissent, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? On va pilonner le coup
droit. Clément Gaz, Eric Sinistro, ils ont dit que,
voilà. Ils ont bien raison. Franchement, je les ai écoutés. RTL Équipe, c'est la petite radio qui monte. Vous allez voir, c'est sympa. Résultat, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils vont pilonner le coup droit, et là, ils se font bâcher.
Ça veut pas dire que ça arrivera à tous les coups.
Non, mais ça veut dire qu'ils sortent de Rome avec une espèce de désert de solutions tactiques.
Ce qui est terrible psychologiquement, c'est que à Indian Wells et Miami, on dit c'est sur dur, plutôt lent, donc c'est avantage Djokovic. Bon, très bien. On arrive sur terre, on se dit là par contre Nadal va profiter de la surface. À Madrid, il accroche mais il perd. On se dit bon, il y a l'altitude, tout ça. À Rome, on arrive dans des conditions encore plus avantageuses pour lui. Et c'est vrai que les scores deviennent de plus en plus sévères. L'ascendant psychologique devient de plus en plus important.
2-2 et 2 en finale.
Non mais
son premier tour.
C'est vrai que c'est surprenant quoi.
Ouais. Puis c'est en plus ce qui est encore un peu plus dur, c'est que quand vous êtes joueur, c'est si vous jouez un joueur par exemple un Karlovic ou un Joe Tsonga qui sert, qui met un gros coup droit, qui vous met complètement à la rue. Là, il y a des échanges, donc vous dites. Tant qu'il y a des échanges, tant qu'il y a 5, voire 7, 10 frappes, c'est que j'ai ma chance, s'il y a des opportunités. Mais pour l'instant, les opportunités, il n'arrive pas à les trouver.
Et du coup, on a vu Nadal un peu se précipiter, tenter le coup qui fait mal parce que il voyait bien que il était moins solide que son adversaire. Donc c'est vrai que Djokovic a un peu retourné le problème que Nadal posait à ses adversaires contre lui-même. Et ça va être intéressant du côté de Roland Garros. Alors, j'ai envie de vous dire, vous parliez du tirage au sort tout à l'heure. Ça va être très important. Nadal, Djokovic, tête de série 1 et 2, ok, à l'opposé du tableau, ils vont se retrouver éventuellement en finale. qui va prendre Federer, qui va prendre Murray. Ouais. Aujourd'hui, on a tendance à dire vaut qui mieux avoir Federer Murray dans sa partie.
Ouais. Cela dit, je trouve sincèrement, autant les années précédentes sur Terre, je brisais bien Murray, autant là, j'ai trouvé que il a trouvé le bon compromis entre être trop patient, comme il l'était les deux, trois dernières saisons, et offensif, et je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, je dis pas qu'il va gagner Roland, mais en tout cas, si lui, pour le coup, il a vraiment un tableau qui peut bien lui permettre d'aller un peu plus loin en deuxième semaine et pas des Espagnols ou des Argentins qui vont bien lui limer et qui des matchs qui vont durer, il peut peut-être...
Là, Nadal, il doit se dire, pourvu que j'ai Federer dans ma partie de tableau, quoi. Et pas Murray.
T'imagines?
Non, Nadal, mais attendez, parce que aussi, il y a...
Moi,
non,
mais... je préfère avoir le 3
mondial.
Mais oui, mais,
quand
je,
même.
Pense... mais, si, non, mais attendez. Attends, je pense que là, on préfère avoir Federer que Murray.
Non, mais d'accord, mais Raphaël Nadal, à partir du moment où il met le pied là sur ce cours central... Je peux vous dire, mais c'est plus le même. Je veux dire, on oublie Madrid, on oublie Rome. Quand il aura Djokovic en face de lui, c'est pas sûr qu'il arrive à complètement oublier. Mais quand même, c'est un autre endroit. Je pense qu'il est, ouais, il se transforme quand il arrive dans ce stade.
Est-ce que Murray, on en parle beaucoup, effectivement, c'est vrai qu'il est sans doute troisième dans
la hiérarchie,
mondial, ouais, la hiérarchie sur terre battue. Mais au final, il accroche Nadal, mais il perd. Il accroche Djoko, mais il perd. Donc il est.
Et Federer, quand il le joue ces derniers temps, il l'accroche, mais il perd aussi.
Ouais, moi, franchement, oui, c'est vrai. Mais vaut mieux quand même avoir Federer dans sa partie de tableau, parce que Nadal, il sait que s'il a Federer, eh ben, il reprend son travail de pilonnage avec son coup droit sur le revers, et sur 3-7, l'autre, il peut toujours se lever tôt, à mon avis, pour... Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, mais ça va dépendre aussi des conditions. S'il pleut, si la terre est plus lourde, s'il fait très chaud pendant la quinzaine, Nadal n'a pas encore eu des conditions idéales en termes de terre battue, avec le lift qui gicle beaucoup parce que les conditions sont très sèches. Là, on sort de un mois de grand soleil, grosse chaleur à Paris. Moi, je sens bien un peu de flotte pendant le Roland.
Oh, hein.
Cela dit, tous les joueurs m'ont dit que vraiment les balles étaient vivantes. Vraiment très vivantes. Hein.
Ouais, mais bon,
tous m'ont dit.
On verra si les conditions aussi avantagent plutôt un ou plutôt l'autre.
Dites donc là.
Oui, Sharapova.
On parle des filles, voilà.
Sharapova.
12h23 tout de même.
Et Sharapova.
Francesca Schiavone.
Alors tiens, alors Sharapova, on a bien dit, alors elle gagnera pas Roland, quoi.
J'adore. Ouais, elle est en super forme.
Est-ce que là, on peut le dire de façon catégorique?
Vous la verriez là sur les cours d'entraînement. Elle est super détendue. Elle est là avec son basketteur là.
Moi, je pense qu'elle ne gagnera pas. Mais...
Elle joue bien.
Par contre, j'ai un énorme respect pour elle.
Mais il y a qui sinon parce que... Qui peut gagner? Wozniacki, elle joue super mal en ce moment.
Sur Terre, elle est...
En ce moment, vous dites?
Elle se fait balader. Ah. Hier, elle galère.
Elle gagne plus.
Elle s'est fait balader par l'Allemande. Hier, elle galère pour battre une joueuse, Lepchenko, une Américaine, je sais pas qui c'est. Elle gagne 4-6.
Ne sommes pas à l'abri d'avoir des espèces de joueuses improbables dans le dernier carré. Je vous le cache pas.
Schiavone sera là, Roland, vous inquiétez pas. Stozer, elle revient bien. Stozer,
elle va faire minimum demi.
On peut avoir une Sibulkova, une Kirilenko. Wow.
Mais les Azarenka, les Kvitova, là, qu'on a vu en finale à Madrid il y a deux semaines. Bon, Azarenka qui était un peu blessée contre Sharapova, alors elle est toujours blessée aussi.
Terme. Alors non, mais pourvu qu'il n'y ait pas un Azarenka-Sharapova, j'en garde un souvenir d'horreur.
Ah, c'était un triste match.
Mais c'est-à-dire que c'est insoutenable en termes de nuisances sonores, c'est pas possible. Hein, c'est...
Après, les riverains de la Porte d'Auteuil vont redemander à Roland Garros de déménager.
Mais Azarenka, physiquement, elle était très très bien là cette saison, donc peut-être qu'elle commence à payer un peu le contre-coup de ses efforts. Schiavone, et moi je crains que la pression la rejoigne, parce qu'on sait que c'est son gros objectif, hein, Roland Garros. Oui. Elle a tout mis en place pour que ce soit l'objectif principal.
On peut pas dire qu'elle est bien jouée quand même en plus.
Elle a pas bien joué.
Schiavone, troisième tour. Je vous l'annonce. Ah, je prends les paroles.
Alors, attendez, parce que vous avez lu dans le monde de café, qui va gagner alors?
On a perdu les Serbes, hein, Ivanovic, Jankovic, on les a perdus. Jankovic qui perd contre Arvidsson à Bruxelles, enfin bon, là, on l'a perdu complètement, quoi. Une Zvonareva?
Ouais. Non, mais de toute façon, ça va jouer quand même logiquement dans le groupe de tête. Avec Zvonareva, peut-être Kleister, si au niveau de ses petits pépins physiques, ça va.
Elle s'est entraînée ce matin. Voilà.
Moi, je vois bien Stozer cette année.
Stozer, moi, je la vois au moins dans le dernier carré. Après, voilà, il y a le passage, il faut passer le cap.
Et puis, bon, souhaitons à Maria, de vraiment...
Ça serait tellement chouette.
Ouais, parce que, comme je disais...
Elle revient de loin. Hein,
j'ai beaucoup de respect, elle fait pas de bruit. Bon, elle fait pas de bruit, ça dépend quand. Mais voilà, quoi, elle s'est toujours accrochée, hyper professionnelle, elle fait son boulot. Je veux dire, moi, c'est vraiment... Autant il y a des joueurs et des joueuses qui, quand ils retombent très loin, ont beaucoup, beaucoup de mal, même jamais à réussir à revenir un minimum à leur meilleur niveau. En tout cas, elle leur a tout mis de son côté, elle se sera appliquée, voilà, elle n'aura pas fait de bruit, elle a recommencé par des tournois un peu plus petits, genre Memphis, et tout ça pour grappiller un peu de confiance, et puis là, elle revient vraiment sur le niveau. Après, sur 15 jours sur Terre, Moi, je me fais un peu de bon.
Ce qui est génial avec cette fille, c'est que on l'a très vite mis dans une catégorie de joueuse poupée qui avait énormément de talent, mais voilà, qui était surtout une bimbo, quoi. Et bon, on le savait, elle a gagné, donc voilà, elle a fait partie de ces joueuses qui ont porté un petit peu le tennis féminin. Et puis ensuite, elle a disparu. Et je pense que dans l'imaginaire collectif, les gens se sont dit, oh, de toute façon, Maria Sharapova aujourd'hui, elle fait des défilés de mode, et voilà. Alors qu'en fait, c'est l'exact inverse. Maria Sharapova, c'est le triomphe du travail, de la modestie, de la volonté. De... Enfin voilà, c'est juste l'exemple pour n'importe quelle joueuse de tennis qui rêve d'aller au sommet. Et ben, c'est Maria Sharapova sur qui il faut prendre
et
exemple aujourd'hui.
Et d'ailleurs, même au niveau vestimentaire, elle est revenue à des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus sobres.
Ou c'est pas forcément la meilleure idée qu'elle a eue, d'ailleurs.
Ah si, non, souhaitons qu'à Roland Garros, ça soit comme ça. Ah non, non.
Moi, sinon, j'ai une idée. Je pense Allez-y. Que ça aurait été bon que Amélie Mauresmo et Steffi Graf reprennent du service parce que.
En ce moment.
Voilà. Et il paraît Andrea
Petkovic.
Andrea Petkovic, qui s'entraîne énormément.
Elle peut rejouer d'ailleurs maintenant. Sa suspension est levée, ça y est.
Ouais. Parce qu'elle elle s'entraîne énormément, en tout cas. Mais figurez-vous qu'Andrea Petkovic, qui a tapé il y a quelques semaines là, avec Steffi Graf, a dit elle sera top 20 là telle qu'elle joue. Ah
bah, elle joue samedi.
C'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs. C'est
un petit peu inquiétant en termes de ce qui se passe au
jour samedi sur le centre à la Mélie.
Avec Bob
Sinclair pour une exhibition, on change
Bob,
quoi,
les enfants de Roland Garros.
Bob, désolé, merci. Non, c'était Bob.
Bon, et ben pour les filles, ça semble
moi,
bien ouvert en tout cas.
Cela dit, une fois de plus, on parlait un petit peu. Vous avez dit que Robert et Gaz étaient au dernier tour. Eric Prodon aussi est au dernier tour des qualifs.
Très bien.
Et par contre, chez les filles, on avait quand même. Non, c'était pour arriver. Pour
les Françaises,
La petite sœur de Torp, Laura Torp.
On avait quand même 9 filles.
Elle est nulle, votre blague.
Elle a gagné.
Ouais. La petite sœur de Torp.
Mais de Torp, notre confrère qui travaillait à la Fédération française.
J'ai cru que vous étiez
pendant...
en train de parler de Yann Torp.
Ah non,
vous en
pas
parlais
du tout.
Dans le truc. Je me suis dit, c'est la blague pourrie. Excusez-moi, Eric. Excusez-moi.
Mais donc
vraiment.
Elles étaient 9 au premier tour hier et elles sont plus que 2.
C'est compliqué pour les. Bah
oui,
souvent des scores, elles ont toutes eu des wildcards. Donc il y a que Julie Coin qu'on attendait un peu.
Il y en avait que 2 qui étaient directement dans le tableau des qualifs.
C'est compliqué. Et le futur plus grand talent du tennis français a déjà disparu des qualifs. Gianni Minner.
Oui, non, laissez-le où il est.
Oh là là, c'est dur.
Son premier tour contre Nadal, c'est la pire des choses qui pouvait lui arriver. Il a été tellement focus partout que du coup, maintenant, il faut le laisser travailler tranquille. Je voudrais qu'on finisse, il nous reste une petite minute. On parlait des filles, je voudrais en mettre une à l'honneur de filles. C'est Marion qui m'a envoyé une petite lettre cette semaine et qui m'a envoyé surtout une maquette. Elle est pianiste, musicienne et elle compose des éléments sonores, cette chère Marion. Et elle m'a dit, voilà, j'écoute régulièrement Carrément Tennis et je vous envoie cette petite maquette pièce sonore qui s'appelle Suspense sur le central. Écoutez, c'est très sympa. Et on va finir l'émission avec ça. Elle a mixé des commentaires, des bruits sonores avec sa musique à elle au piano. C'est plutôt sympa, Marion. Merci de nous avoir envoyé ça. Merci d'écouter régulièrement Carrément Tennis. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. D'ici là, Roland Garros en fil rouge et en quasi-intégralité toute la semaine à partir de dimanche. Dans quelques secondes, juste après le petit élément sonore de Marion, vous retrouvez Laurent Bazin et Elisabeth Martichoux pour RTL Midi.
Attention à ce coup droit de l'Espagnol.
Il est partout.
Elle est bien touchée cette balle.
Trop pas.
RTL L'équipe, la radio sport et info.